Vous écoutez, on lit pour vous.
Le privé à la rescousse. Et pourquoi pas? Un texte de Maxime Bergeron publié le 25 novembre 2025 dans La Presse. Le privé à la rescousse. Et pourquoi pas? Trop beau pour être vrai. C'est ce que je me suis dit en lisant la primeur de Katia Gagnon lundi dans La Presse. Trois gros promoteurs souhaitent ériger 2500 logements pour sans-abri à Montréal. Ils les construiraient sans marge de profit pour la moitié du coût habituel de ce type de projet. La promesse est à la hauteur de leur portefeuille immobilier. Gigantesque. Ces entreprises croient pouvoir sortir 40 % des sans-abri de la rue en quelques années à peine. J'ai des doutes. Il reste bien des ficelles à attacher. Mais ça m'apparaît possible. Le montage financier proposé est réaliste. Et mieux encore, un projet du même genre est en voie d'être terminé en un temps record pour des aînés à faible revenu. Le privé vient à la rescousse là où tous les ordres de gouvernement ont failli depuis des années. Et pourquoi pas? La crise de l'itinérance s'est transformée en crise humanitaire. La métropole dénombrait 4700 sans-abri selon un recensement de 2022 et le chiffre frôlerait aujourd'hui les 6000. Les campements se multiplient tout comme les actes d'incivilité. Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie accentuent le sentiment d'insécurité de bien des Montréalais. Mais dans ce magma de détresse, il y a aussi une frange d'itinérants, plus récente, constituée de gens évincés en raison de la hausse des loyers. Ceux-là sont moins poqués et plus aptes à être autonomes en appartement. À condition d'en trouver un. Et c'est pour eux que trois promoteurs, le groupe MAC, Devimco et Cogir Immobilier, veulent construire des logements. Vincent Chiara, président du groupe MAC, a lancé l'idée de former un consortium entre les grands acteurs montréalais de l'immobilier il y a quelques mois. Un quatrième groupe, Broccolini, aurait accepté de participer à l'effort, m'a-t-il dit en entrevue. Je ne doute pas que ces entreprises veulent et peuvent jouer un rôle pour résorber la crise. Un autre élément entre sans doute aussi dans leur raisonnement. La montée fulgurante de l'itinérance est mauvaise pour la business. Elle nuit à l'image de Montréal, au climat d'investissement et à leurs affaires par le fait même. Toujours est-il qu'ils ont un plan de match assez étoffé pour s'y attaquer. Vincent Chiara a été stupéfait des coûts d'un projet de logement pour sans-abri qui lui a été présenté. Le complexe de 50 portes, piloté par un organisme à but non lucratif, revenait à 900 $ le pied carré. Une facture « énorme », entre guillemets. Mac bâtit ses appartements privés pour environ 450 $ le pied carré, tout frais compris. Le projet proposé par Chiara et ses associés s'éloigne du modèle habituel de construction de logements sociaux. Il ferait appel à une série de leviers mis en place par Québec depuis 2 ou 3 ans, pour diversifier les sources de revenus. Entre autres, Montréal vendrait au prix coûtant ou même donnerait une dizaine de terrains pour ériger ses immeubles de 300 à 400 unités. Le mouvement Desjardins ou la Banque nationale fournirait le financement pour la construction à des taux de 3 ou 4 % Québec donnerait un congé de TVQ. Et les bâtisses, une fois terminées, seraient rétrocédées à la Société d'habitation du Québec ou à des organismes à but non lucratif qui rembourseraient le prêt hypothécaire sur 50 ans. Les locataires paieraient le quart de leurs revenus grâce à un programme gouvernemental de supplément de loyer. Cela en ferait l'équivalent de HLM construit par le privé. Un comité de gouvernance qui pourrait inclure la Caisse serait mis en place pour assurer une saine gestion des deniers publics, ajoute-t-il. L'affaire coûterait, guillemets, des peanuts, fin des guillemets, à l'État, avance Chiara. C'est vrai, sur papier du moins. Le consortium aimerait lancer un premier chantier dès l'été prochain. Une dizaine d'immeubles de 6 à 15 étages seraient érigés aux quatre coins de la ville, plutôt qu'en un seul lieu, pour éviter de former des ghettos. Chiara évalue le temps de construction moyen à 18 mois avec la livraison de 2 bâtiments par année. Les entreprises privées ne feraient pas de profit. Mais oui, ce chantier ferait bosser leurs troupes pendant que le marché du condo neuf est au point mort. Elles retireraient sans doute des frais de développement pour ne pas travailler à perte, comme les OBNL qui développent des logements sociaux. Ce ne serait pas du bénévolat. Mais est-ce que ce méga-projet profiterait à la collectivité? Le projet récent de Mission Unie est né de l'homme d'affaires Luc Maurice prouve que les modèles nouveaux genres peuvent fonctionner. Son OBNL est en train de finaliser 11 immeubles totalisant 1100 logements pour aînés à faible revenu. Coût moyen? Environ 250 000 $ par appartement, presque la moitié moins que les projets de même nature réalisés jusqu'ici. Conclusion, l'explosion des coûts n'est pas une fatalité. Laisser de la place au secteur privé pour aider à résorber des crises qui dépassent nos autorités? Absolument, tant que des remparts sont mis en place pour prévenir les abus. C'était Le privé à la rescousse et pourquoi pas? Un texte de Maxime Bergeron publié le 25 novembre 2025 dans La Presse.
Des exercices cognitifs qui rajeunissent le cerveau. Un texte de Pauline Gravel, paru le 15 octobre 2025 dans Le Devoir. Un essai clinique a montré pour la première fois chez l'être humain qu'un entraînement cognitif soutenu qui sollicite certaines facultés qui déclinent avec l'âge rajeunit les réseaux neuronaux responsables notamment de l'attention et de la mémoire. Plusieurs études avaient montré ces dernières années qu'un tel entraînement améliorait les performances cognitives ou du moins atténuait leur déclin en raison du vieillissement. L'essai clinique réalisé au Neuro à Montréal et dont les résultats ont été publiés lundi le 13 octobre 2025 met cette fois en lumière les modifications qui surviennent dans le cerveau à la suite de cet entraînement. Les 92 participants, âgés de 65 ans et plus, en moyenne 72 ans, qui ont participé à cet essai clinique ont effectué des exercices cognitifs sur une tablette ou un ordinateur une demi-heure par jour, 7 jours par semaine et ce, pendant 10 semaines. Les chercheurs de l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, le Neuro, ont regardé le cerveau des participants avant cet entraînement ainsi qu'après le programme de 10 semaines. Ils ont concentré leur analyse plus précisément sur l'acétylcholine, un neuromodulateur qui assure la communication entre les neurones formant les réseaux cérébraux qui sont au cœur de l'attention, de la mémoire et de la plasticité du cerveau, précise le docteur Étienne de Villers-Sidani qui a dirigé l'étude. Ces réseaux forment des projections particulièrement puissantes depuis le noyau basal de Ménère qui régule les niveaux d'éveil et de vigilance vers certaines zones clés du cerveau, comme les hippocampes où la mémoire se forme, et le cortex cingulaire antérieur, qui est un point central de coordination dans le maintien de l'attention. Or, ces réseaux se dégradent normalement avec l'âge et encore plus dans des troubles neurocognitifs sérieux comme la maladie d'Alzheimer, explique le chercheur. Avant de procéder à l'imagerie par tomographie par émission de positrons, TEP, du cerveau des participants, on leur a injecté un radioligand, un colorant en quelque sorte, qui allait se fixer à l'acétylcholine présent dans les vésicules qui se trouvent aux extrémités des neurones composant ces réseaux. Ces vésicules libèrent leur acétylcholine dans la synapse, l'espace entre les neurones qui communiquent entre eux, quand le neurone s'active. À mesure que l'on vieillit, ces vésicules d'acétylcholine se raréfient. Et quand les neurones dépérissent dans le cadre d'un trouble neurocognitif, on en voit de moins en moins aussi. Or, personne n'avait pensé à utiliser ce ligand-là pour regarder si on pouvait augmenter la présence de ces vésicules avec une intervention, quelle qu'elle soit, souligne un neurologue de Villers-Sidani. Après 10 semaines d'entraînement cognitif, le nombre de vésicules avait augmenté en moyenne de 2,3% dans les régions du cerveau ciblées dans l'étude. Dans ces aires clés, ces vésicules diminuent normalement d'environ 2,5% par décennie. À cet égard, l'état du cerveau des participants était donc revenu à ce qu'il était 10 ans auparavant. L'entraînement cognitif. Pour s'assurer que ces changements neuronaux étaient bel et bien dus à l'entraînement et non à un effet placebo, une partie des participants ont effectué quant à eux un autre type d'activité beaucoup plus simple, semblable à un solitaire ou Candy Crush, qui n'a engendré aucune modification neurochimique comparable. L'entraînement cognitif doit en effet comporter certains ingrédients pour être efficace, prévient le docteur de Villers-Sidani. Bien qu'ils aient des effets bénéfiques, de simples mots croisés ou la lecture ne suffisent pas. Il faut que l'exercice retienne constamment l'attention de la personne et l'empêche d'être facilement distraite. Il faut aussi que le niveau de difficulté de la tâche soit constamment haussé de façon à maintenir l'intérêt de la personne et la forcer à s'améliorer, sans pour autant lui imposer une trop grande difficulté qui pourrait la décourager. Les exercices doivent procurer des rétroactions pour que la personne puisse s'améliorer et ils doivent être effectués relativement rapidement afin que la personne demeure sans cesse attentive à la tâche. Le vieillissement cognitif se caractérise par un ralentissement du temps de réaction, un ralentissement au niveau de l'identification des éléments qui sont importants dans notre environnement. Ce ralentissement peut être de quelques millisecondes à quelques centaines de millisecondes, une durée qu'on imagine n'avoir que très peu d'impact. Pourtant, ces petits ralentissements ont un effet boule de neige, car si on est ralenti au niveau de la perception, cela ralentira tous les autres processus autour et même cela peut faire en sorte que l'information se perdra en cours de route. C'est pour cette raison que cet élément de vitesse est aussi un enjeu important de l'entraînement, explique le professeur de l'université McGill. Les tâches doivent également inclure des éléments importants dans le champ visuel périphérique pour forcer la personne à faire un bon échantillonnage de l'information qu'il y a autour d'elle. L'un des deux exercices de l'entraînement sollicite le réflexe d'inhibition, soit le fait d'être capable de décider quand un élément visuel est important et quand il doit être filtré pour ne pas qu'il nous distrait. Toutes ces situations ont un lien avec l'attention et sont gérées en grande partie par le cortex singulaire qui est au centre du cerveau et qui est un peu comme un chef d'orchestre au niveau de l'attention, rappelle le neurologue. Dans le cadre de leur essai clinique, les chercheurs du Neuro ont utilisé l'application BrainHQ, mise au point par la société californienne Posit Science. Cette application est l'aboutissement de nombreuses études effectuées notamment en collaboration avec des universités, souligne le docteur de Villers-Sidani. Elle intègre donc tous les ingrédients de base pour renforcer l'attention qui se dégrade avec le vieillissement cognitif. À la clinique, on entend souvent des gens dire « Parfois, quand je vais dans la cuisine au moment d'ouvrir le frigo, je ne me souviens plus ce que j'étais venu chercher. » Ou « Je ne me souviens plus du nom de quelqu'un. » Tous ces problèmes d'accès à l'information sont liés à l'attention. On n'est pas complètement dans le moment présent, on a beaucoup de choses en tête, on a toutes sortes de soucis, on pense à toutes sortes de choses, notre attention est divisée. Diviser notre attention est une mauvaise habitude. Les exercices que nous proposons travaillent l'attention, la renforcent et nous permettent finalement d'aller chercher l'information plus rapidement et d'éviter ce genre d'oubli, explique le spécialiste des troubles cognitifs. L'équipe du Neuro s'apprête maintenant à effectuer un nouvel essai clinique avec des personnes qui présentent de légers déficits cognitifs qui sont des pré-Alzheimer. On espère que l'entraînement retardera le développement de la maladie. C'était « Des exercices cognitifs qui rajeunissent le cerveau », un texte de Pauline Gravel, paru le 15 octobre 2025 dans Le Devoir.
Le secret de la longévité de la baleine boréale, un texte de Pauline Gravel, paru le 30 octobre 2025 dans Le Devoir. La baleine boréale est l'un des mammifères les plus gros et qui vit le plus longtemps. Des chercheurs ont tenté de percer le secret de sa longévité exceptionnelle. Leur découverte indique que ces mammifères marins sont dotés d'un système d'une formidable efficacité pour réparer les régions de leur génome ayant subi des mutations, lesquelles sont souvent à l'origine de cancers. La baleine boréale qui habite dans les eaux de l'Arctique et de la région subarctique peut vivre plus de 200 ans et peser plus de 80 000 kg. En principe, sa longue durée de vie et son imposante masse corporelle devraient la prédisposer à accumuler un grand nombre de mutations au cours de sa vie, étant donné que chaque cellule qui la compose est susceptible de subir des mutations au cours du temps et de ce fait de devenir cancéreuse. Mais, étrangement, le nombre considérablement élevé de cellules et conséquemment de divisions cellulaires, durant lesquelles surviennent le plus souvent les mutations, chez les plus gros organismes ne conduit pas nécessairement à une incidence plus élevée de cancer et à une durée de vie plus courte. Cette absence de corrélation entre la taille de l'animal et le risque de cancer a été dénommée « paradoxe de Peutz ». Ce paradoxe s'expliquerait par la présence chez les très gros animaux, comme la baleine, de mécanismes naturels capables d'éliminer beaucoup plus efficacement que chez l'humain notamment, les cellules en voie de devenir cancéreuses. Ce sont ces mécanismes que l'équipe de chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine à New York a voulu identifier chez ce mastodonte de la mer qui visiblement arrive à échapper à la mort par cancer pendant plus de 200 ans. Les chercheurs ont d'abord vérifié si la baleine boréale, à l'instar des éléphants, se protégeait du cancer par une activité accrue du gène suppresseur de tumeurs P53 qui déclenche l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules ayant subi des dommages à leur ADN, afin qu'elles ne prolifèrent pas en cancer. Après avoir été exposées à des rayons UVC, UV de très haute énergie qui sont les plus dangereux pour toutes les formes de vie, les cellules, en l'occurrence des fibroblastes de la baleine, présentaient une activité de la protéine P53 ainsi qu'un taux d'apoptose qui était moins élevé que chez l'humain. Ces résultats laissent croire qu'il est peu probable que l'intervention du gène suppresseur de tumeur P53 soit un contributeur majeur à la résistance des baleines face au cancer, concluent les auteurs de l'étude dans leur article publié dans Nature. Ceux-ci ont ensuite regardé combien de mutations successives une cellule de baleine devait subir au minimum avant de devenir maligne. Les chercheurs émettaient l'hypothèse que la baleine était peut-être mieux protégée du cancer que l'humain par le fait qu'un nombre plus élevé de mutations était nécessaire pour que ces cellules deviennent cancéreuses. Or, ils ont observé qu'au contraire, les cellules de la baleine boréale requéraient moins de mutations que les cellules humaines pour enclencher leur transformation en cellules malignes. Ce deuxième processus n'entrait donc pas en jeu, lui non plus, dans la protection contre le cancer. Les scientifiques ont également remarqué que les cellules de baleine présentaient des taux de mutations spontanées et induites par divers traitements mutagènes nettement moins élevés que les cellules humaines et qu'elles étaient particulièrement résistantes à l'accumulation de mutations. Réparation. Dans le but d'élucider ces taux moindres de mutations, les chercheurs ont évalué l'efficacité des mécanismes de réparation de l'ADN que toute cellule possède. L'activité du système PARP, ou poly-ADP-ribose, polymérase, qui est menée par une enzyme qui détecte les cassures dans l'ADN et active les mécanismes de réparation, était nettement plus élevé dans les cellules de baleine que dans les cellules humaines, et ce, autant dans des conditions normales qu'après un traitement génotoxique, tel qu'une irradiation au rayon gamma. Les cellules de baleine faisaient preuve d'une meilleure survie et d'une réparation légèrement plus rapide à la suite d'un traitement au peroxyde d'hydrogène. le système de réparation des erreurs d'appariement de l'ADN commises durant la réplication de l'ADN lors de la division cellulaire était significativement plus efficace dans les cellules de baleine que dans les cellules de souris, de vache et d'humain. De même, le mécanisme de réparation des cassures double brin de l'ADN était clairement utilisé plus fréquemment chez la baleine que chez les autres espèces. Selon les auteurs de l'étude, ces observations laissent croire que les fibroblastes de la baleine font l'objet de réparations par ces deux systèmes d'une efficacité exceptionnelle qui les protège contre les mutations et l'instabilité chromosomique. Finalement, les chercheurs ont mis en évidence une protéine dénommée CIRBP, Cold Inducible RNA Binding Protein, qui est présente en grande quantité dans les cellules et les tissus de la baleine boréale. Ils ont noté que les cellules qui en contenaient beaucoup présentaient moins d'aberrations chromosomiques. Aussi, la surexpression de CIRBP retardait la croissance des tumeurs chez la souris et l'expression de CIRBP de baleine dans des cellules humaines favorisait une meilleure stabilité du génome de celle-ci. Cette protéine viendrait prêter main-forte au mécanisme de réparation des cassures double brin de l'ADN et réduirait du coup les anomalies chromosomiques, avancent les auteurs de l'étude. Il n'existe pas de thérapie à l'heure actuelle qui permettrait de renforcer les systèmes de réparation de l'ADN et ainsi de prévenir le cancer et le déclin lié à l'âge chez l'humain, font-ils remarquer. Mais accroître l'activité ou l'abondance d'une protéine comme la CIRBP pourrait permettre de traiter l'instabilité du génome comme s'il s'agissait d'un facteur de risque de maladie modifiable. Cette stratégie pourrait notamment profiter aux patients dotés d'une prédisposition génétique élevée de développer des cancers, ou plus généralement aux populations vieillissantes qui sont à plus grand risque de développer un cancer, avance-t-il. Le secret de la longévité de la baleine boréale ouvre ainsi une nouvelle piste à explorer dans la recherche sur le cancer. C'était Le secret de la longévité de la baleine boréale, un texte de Pauline Gravel paru le 30 octobre 2025 dans Le Devoir.
Nos organes n'ont pas tous le même âge. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse. Un lecteur a posé cette question. Est-ce que toutes les parties du corps humain vieillissent au même rythme? Non. Pour plusieurs raisons. Génétiques, environnementales et liées au mode de vie. Depuis quelques années, des recherches ont constaté que les différents organes du corps humain ont leur propre horloge biologique, explique Mika Kivimaki du Collège universitaire de Londres, UCLS, qui a publié une étude sur le sujet au début de 2025 dans The Lancet. Certains organes vieillissent plus vite, d'autres plus lentement, nous dit Mika Kivimaki. La vitesse de vieillissement de chaque organe dépend de facteurs génétiques, environnementaux et de mode de vie. Certaines maladies affectent davantage un organe qu'un autre. L'épidémiologiste d'origine finlandaise donne l'exemple du tabagisme, qui endommage surtout les poumons et les artères où circule le sang, ou de l'hypertension non traitée, qui fait vieillir les artères. Sur le plan génétique, la mutation APOE4 augmente le risque d'Alzheimer, tandis que la mutation UMOD accélère le vieillissement des reins. L'inflammation dans les reins, générée par UMOD, augmente par ailleurs le risque de rhumatisme. Les avancées dans la mesure du vieillissement des différents organes vont permettre la détection précoce des maladies et donc améliorer leur prévention et leur guérison, selon le docteur Kivimaki. Si nous trouvons des manières de ralentir le vieillissement des organes, des traitements qui seront spécifiques à chaque organe, on pourrait retarder la progression de centaines de maladies liées à leur vieillissement, estime-t-il. Cette approche est appelée prévention primordiale. Le but est non seulement de prévenir les maladies, mais aussi de cibler les facteurs de risque liés à chaque organe pour ces maladies, ajoute-t-il. Médecine personnalisée. La surveillance du vieillissement de chaque organe est cruciale pour permettre la médecine personnalisée, soit l'établissement de traitements pour chaque patient en fonction de ses risques et de l'évolution de certains paramètres biologiques. Dans The Lancet, le docteur Kivimaki a montré, grâce à des tests sanguins mesurant des centaines de protéines dans le sang, que celles-ci sont liées au vieillissement de 9 organes et prédisent les risques de souffrir de 30 maladies dans les 20 années suivantes. Son étude a analysé les dossiers médicaux de 6200 patients britanniques à partir de prises de sang réalisées dans les années 1990. Pour avoir un portrait fiable pour chaque patient, il faudra mesurer des milliers de protéines dans le sang, dit-il. Actuellement, ces tests sont trop chers, mais leur coût devrait baisser dans les prochaines années. Et leur précision sera aussi améliorée. En savoir plus, source Statistique Canada. 59 ans. Espérance de vie des Canadiens nés entre 1920 et 1922. 82 ans. Espérance de vie des Canadiens nés en 2019-2020. C'était « Nos organes n'ont pas tous le même âge ». Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse.